Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
248 pages truffées de passages entre crochets. La publication par Greenpeace de documents confidentiels sur le traité de libre-échange qui se négocie en ce moment entre les États-Unis et l'Union européenne a au moins le mérite de lever le voile sur des discussions souvent qualifiées d'opaques. Ces discussions, elles ont débuté mi-2013, il y a donc 3 ans. Objectif, signer un traité transatlantique appelé aussi TAFTA ou TIPP, un traité censé abolir les barrières commerciales et réglementaires entre les deux zones, un traité très critiqué par plusieurs ONG, par la classe politique et des deux côtés de l'Atlantique d'ailleurs. Aux États-Unis par exemple, Bernie Sanders, Donald Trump et même Hillary Clinton ont critiqué le projet. En Allemagne, on a manifesté il y a quelques jours contre le TAFTA. Enfin en France, à 1 an de la présidentielle, on le verra, le contexte n'est pas anodin. Le ton de l'ensemble de la classe politique se durcit. La France dira non à toute conclusion du traité qui mettrait l'agriculture en difficulté, déclarait François Hollande. Je croit à la concurrence loyale, pas à la concurrence déloyale, expliquait de son côté l'ancien président Nicolas Sarkozy. C'était hier dans une interview au journal du Dimanche. Alors le traité transatlantique est-il dangereux? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio 2 invités. Elvire Fabry, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, chercheur à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'action extérieure de l'Union européenne et de sa politique commerciale. Thomas Porcher, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en économie à l'Université Paris 1, professeur à la Paris School of Business. Vous êtes aussi le co-auteur du livre TAFTA, l'accord du plus fort, co-auteur avec Frédéric Farah. Et ce livre est paru aux éditions Max Milo. Alors Thomas Porcher, avant d'en venir au contenu propre des négociations, je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot opacité qu'on a beaucoup entendu à propos de ces négociations. La sortie des documents ce matin, est-ce que du coup c'est une bonne nouvelle ?
Oui, c'est une bonne nouvelle parce que on a plus de transparence. Là, on a accès à des documents, à un certain nombre de documents, à beaucoup de pages. Donc, on va pouvoir lire et voir ce qu'il y a. Bon, c'est pas un texte final. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de parties entre parenthèses. Mais ça permet d'avoir un peu plus de transparence sur un dossier où il y avait quasiment pas de transparence. Pour moi, il n'y en avait pas dans ce que je voyais. La communication de la commission était d'une banalité affligeante et même les parlementaires s'étaient plaints et avaient signé une tribune commune dans un quotidien disant qu'ils voulaient plus de transparence. Donc oui, ça va dans le bon sens. Tout document sur ce traité qui augmente la transparence est une bonne chose.
Même si certains disaient, mais c'est difficile de rendre public avant les contenus des négociations. Par définition, on négocie, on ne connaît pas les faiblesses de l'autre ou les forces qu'il est capable de lâcher comme lest.
Oui, mais enfin. Peut-être. Enfin, moi, je trouve qu'il y a rien à cacher. Enfin, pourquoi ne pas être transparent? Enfin, quand on cache des choses, c'est que vraiment on veut pas. Hein. C'est qu'il y a quelque chose de mauvais. Pourquoi ne pas être transparent? Enfin, voilà. Là, c'est un document en anglais. C'est un document qui est compliqué quand même à lire. Pourquoi on ne le donne pas? On n'est pas à disposition des gens que ça intéresse, des chercheurs ou des ONG. Enfin, la transparence, c'est jamais trop de transparence. Il y en a jamais trop pour moi de la transparence. Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. On a des informations et puis voilà, on arrive à se forger une opinion. Un peu mieux que ce qu'il y avait dans les communications, encore une fois, de la commission. Vous aviez à la fin des rondes de négociation des espèces de communiqués de presse, où vous aviez des conférences de presse où il y avait parfois 2 journalistes qui ne posaient pas de questions. Enfin, c'est scandaleux. Là, on peut se forger une opinion à partir d'un texte, de quelque chose.
Olivier Fabry, est-ce que vous êtes d'accord avec Thomas Porcher? Est-ce qu'on peut vraiment parler de négociations opaques?
L'appel à plus de transparence, je pense qu'il est plus que légitime, surtout qu'on est en train d'envisager dans le cadre de cette négociation des éléments qui sont très nouveaux par rapport aux précédents accords commerciaux. Maintenant, c'est très intéressant d'avoir ces textes-là en accès libre. On a 250 pages depuis ce matin qu'on peut commencer à éplucher.
Qui, il est vrai, sont très techniques, hein, pour avoir jeté un coup d'œil, c'est compliqué de comprendre.
Oui, c'est juridique, c'est tout l'historique de la politique commerciale. Mais là, ce qui est très intéressant, c'est que pour avoir commencé à jeter un coup d'œil depuis ce matin, vous avez quoi dans ce qu'on appelle ces textes consolidés? Il y a la position américaine, la position européenne. En effet, ce sont pas le texte n'est pas figé, ce sont les premières briques de la négociation. Mais on apprend pas grand-chose sur la position européenne, parce que la position européenne, elle est en accès libre dans toute une série de documents sur les différents chapitres de la négociation sur le site internet de la DG Trade. Ce qu'on voit là, c'est la position américaine. Et c'est eux qui imposent que les textes consolidés ne soient pas accessibles au-delà des parlementaires européens, des parlementaires nationaux, qui maintenant y ont accès en chambre de lecture. Mais et là, ce qu'on voit, c'est les positions qu'ils veulent tenir et leur offensive. Mais ça ne dit absolument rien de ce que la Commission lâcherait ou pas. Alors là, depuis ce matin, ce qui est très bien, c'est qu'en fait, ça va forcer encore plus la Commission à dire haut et fort quels sont ses engagements, notamment, on va en parler, mais sur le volet de la coopération réglementaire, qu'il ne s'agit pas d'abaisser les normes européennes.
Ce qu'elle ne lâchera pas, en tout cas.
Oui, bien sûr, qui sont des engagements. Et si vous allez rechercher les documents de la position européenne sur le site, vous retrouvez exactement ce qu'il y a dans la moitié de ces textes.
Oui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que hier, le fil Twitter n'arrêtait pas de renvoyer vers des textes qui étaient effectivement rendus publics
absolument.
À propos de ces négociations. Alors, je voudrais qu'on en vienne à ces négociations, au contenu de ces négociations. Et on va écouter Jean-François Julliard, numéro 1 de Greenpeace, qui a rendu public donc ces 248 pages de documents. Écoutez.
Ces documents confirment des craintes qu'on avait déjà, à savoir que ce traité transatlantique met les intérêts des grandes entreprises avant notre santé, avant notre environnement. Donc ce traité risque de menacer tout un tas de normes et de règlements qu'on a construits en Europe au cours de ces dernières années et qui protégeaient notre santé, notre environnement, notre alimentation. Et c'est aujourd'hui toutes ces normes-là que ce traité veut balayer d'un revers de la main au nom d'une augmentation des échanges économiques entre les États-Unis et l'Union européenne.
Ouais, donc le numéro 1 de Greenpeace France qui nous parle de l'un des trois thèmes sur lesquels on négocie, les barrières non tarifaires, les fameuses normes. Thomas Porcher, est-ce que ces documents qui ont donc été rendus publics, ils ont conforté vos inquiétudes ?
Bah, on voit qu'on se dirige habituellement, un peu comme dans tous les textes finalement de la Commission ou de l'OMC, on est un peu dans le consensus mou. C'est-à-dire on est dans le dénominateur commun le plus faible. Alors rien n'est cité, rien n'est vraiment dit. Et ça laisse présager quoi, enfin, je pense, donc un texte final qui va être encore assez banal, un petit peu comme le texte de l'accord de Paris où vous n'avez pas le mot énergie fossile par exemple.
Alors donc vous parlez de l'accord de la COP 21.
Oui, donc là ça va être la même chose. Il n'y aura jamais marqué dans ce texte, oui, nous allons importer du bœuf aux hormones ou du poulet lavé au chlore. Il n'y aura jamais marqué ça concrètement, mais on va arriver sur un dénominateur le plus faible possible, et puis après, on va peut-être faire une reconnaissance mutuelle des normes, et donc on pourra importer du bœuf aux hormones. On voit bien vraiment que c'est du consensus mou, quoi. Ça me fait penser aux textes, enfin à tous les textes, moi, que j'ai lus pendant toute ma thèse, des textes de réduction stratégique de la pauvreté du FMI, enfin tous ces textes de grandes organisations où finalement il y a tout et rien.
C'est-à-dire que quoi, à ne pas aller dans le détail, on permet de faire beaucoup, c'est ça, finalement ?
Mais oui, mais parce que on ne veut fâcher personne. On ne veut fâcher personne. Mais il faut bien avoir en tête une chose. Voilà. C'est que c'est un texte mou, qui ne dit rien. On ne veut fâcher personne, qui ne parle pas effectivement du climat, qui ne parle pas du principe de précaution. Donc, on voit l'importance déjà qui accorde les négociateurs sur ces thèmes-là, puisqu'on en a, ces mots ne sont pas dedans. Mais il faut bien avoir en tête que celui qui fait la norme fait le marché. Le standard maker, c'est celui qui fait le marché. Et tout un tas de multinationales qui ont l'habitude de produire selon des normes ne vont pas se laisser faire. Et sur tout un tas de secteurs, vous avez les multinationales américaines qui sont en position de force. Elles n'ont aucun intérêt à prendre les normes européennes. Donc elles vont faire en sorte de garder leurs normes. Donc c'est une négociation qui va être dure.
Alors qu'est-ce que vous en pensez, Elvire Fabry, consensus mou ? Vous êtes d'accord sur cette lecture de ces 248 pages ?
Bah, ce que Thomas Porcher appelle consensus mou, on peut aussi l'appeler règles et principes qui vont mettre en place un exercice de coopération réglementaire. Cette coopération réglementaire telle qu'elle est envisagée, elle doit concerner tous les secteurs, ça va des cosmétiques, ça va des machines-outils jusqu'au textile.
Donc parce c'est que évident c'est beaucoup que... de secteurs, c'est difficile.
Non, c'est-à-dire que dans un accord commercial, vous n'allez pas avoir le détail secteur par secteur et norme par norme, parce que là, c'est pas un accord de 1500 pages qu'on aurait, ce serait 40 000 pages. Par contre, les règles, les principes et comment les négociateurs se proposent d'avancer sur cet enjeu. Sachant qu'il faut préciser qu'il s'agit d'évaluer dans quel secteur, dans quelle norme, on a un niveau de protection équivalent et où, à ce moment-là, à équivalence, on peut mettre en place un principe de reconnaissance mutuelle, où on n'aurait plus qu'à adopter une norme. Et ça veut dire la suppression d'un coût important pour les exportateurs qui n'auraient plus à faire une double certification, double contrôle.
Oui, concrètement, reconnaître une norme, par exemple, pour une voiture en Europe, ça veut dire que la voiture pourrait être exportée de la même manière, exactement avec les mêmes outils, aux États-Unis. C'est ça l'enjeu.
Maintenant, la Commission a dit haut et fort que ce qui était interdit jusqu'à maintenant sur le marché européen ne serait pas davantage autorisé autorisés à l'issue de la ratification d'un tel accord. Donc ça veut dire que le buffer hormone ne rentrerait pas, ça veut dire que les OGM ne rentreraient pas, ça veut dire que c'est vrai pour toute une série évidemment de produits, et ça veut dire aussi que cette coopération réglementaire, in fine, elle serait moins étendue que ce qu'on peut imaginer d'entrée de jeu, parce qu'il y a dans certains cas, les écarts sont trop importants.
Alors justement,
dernier élément, c'est qu'il y a un principe important qui est revendiqué par la partie européenne. Et là, il faut voir comment, côté américain, on se met d'accord. Mais l'ambition serait de retenir même le niveau le plus élevé de réglementation. Donc c'est un exercice qui tirerait vers le haut les normes transatlantiques pour, comme vous l'avez dit, peser aussi sur les marchés mondiaux.
Alors effectivement, Thomas Porchin, la commission l'a répété encore aujourd'hui. Elle assure qu'elle n'acceptera jamais d'abaisser son niveau de protection des consommateurs et de l'environnement. Ça vous rassure pas du tout, ces propos réitérés ?
Pour moi, il y a les principes, il y a ce qu'on dit et puis il y a les faits. Faut pas être aveugle, faut pas vivre dans le monde des bisounours. Et vous avez quand même un lobbying en backup qui est extrêmement puissant. Vous avez des gens qui ont des financements. Le lobbying automobile en Europe, je sais pas s'il a été très bon avec les normes de pollution sur le diesel, par exemple. Hein. Il y a plein d'exemples en Europe où il y a des principes où on vous dit que c'est génial et puis que dans les faits on se rend compte que ça y est pas. Quand vous avez, enfin, cet exemple du chocolat en Europe En Europe, sans TAFTA, vous avez les chocolatiers qui baissent la part du cacao et qui le remplacent par des matières végétales coûtant 10 fois moins cher, tout en gardant l'appellation chocolat, et ça passe au Parlement. On peut pas dire que l'Europe, ce soit la patrie, effectivement, des normes les plus élevées également. Mais demain, ouvrir ce marché où il y a déjà plutôt une négociation et un nivellement vers le bas des normes à des multinationales américaines qui sont beaucoup plus puissantes et qui ne lâcheront pas, effectivement, il y a de quoi avoir des craintes.
Le traité transatlantique est-il dangereux ? C'est donc le débat de ce soir sur RFI avec Thomas Porcher que vous venez d'entendre et Elvire Fabry. Je voudrais qu'on en vienne peut-être au deuxième volet de ces négociations qui pose moins problème. C'est le volet des barrières tarifaires qui existent toujours entre les États-Unis et la France. En gros, la suppression des droits de douane ou leur baisse importante. Quel résultat on attend, Elvire Fabry, finalement avec ce traité, cette fin des normes différenciées, cette baisse des droits de douane, on attend quoi ? On attend des créations d'emplois, on attend une explosion des échanges commerciaux entre l'Union européenne et les États-Unis qui sont déjà énormes, 50% du volume mondial, je crois.
Oui, non, ce qu'on attend, c'est un coup de pouce, c'est pas une solution miracle. C'est un coup de pouce pour les économies européennes, et puis évidemment, côté américain, on y attend la même chose. Il faut resituer cette négociation dans le cadre de toutes les négociations que mène l'Union européenne. Elle en mène une actuellement avec le Japon, on n'en parle pas.
Mais enfin, elle en a mené avec le Canada.
Elle vient de signer un accord avec le Canada qui n'est pas encore ratifié. Elle en mène avec toute une série de pays en Asie du Sud-Est, Amérique latine. C'est une politique qui vise à conforter la place de l'Union européenne sur la scène du commerce mondial, parce que ça reste la première puissance commerciale, que ce soit pour les biens, pour les services, dans le domaine agricole. Il faut pas se leurrer sur les décennies qui viennent.
Juste un coup de pouce? Oui, ou ça peut être plus important.
Est-ce c'est un coup de pouce qui vise, d'une part, à court terme, à faciliter, à renforcer les échanges, nos exportations vers le marché américain, donner accès plus spécifiquement aux PME à ce marché américain par cette coopération réglementaire, parce que c'est quelque chose qui aurait beaucoup plus d'impact encore pour les PME pour lesquels les coûts de certification et de contrôle peut être prohibitif pour accéder au marché américain.
Sur ce point, Thomas Porcher, est-ce que vous pensez que l'ouverture, la libéralisation entre les deux espaces, elle créerait de l'emploi, des échanges?
Je pense pas. Enfin,
les études sont très mitigées, en fait. Hein.
Oui, quand on prend l'ensemble des études, vous avez une étude d'une université américaine qui dit qu'on perd 600 000 emplois, une étude de la commission qui dit qu'on va en créer 2 millions. Donc on comprend bien que les citoyens, ils sont un peu perdus au milieu de tout ça. Maintenant, les études qui ont été commandées par la commission sont extrêmement critiquables. Les modèles utilisés font l'objet de débats dans la science économique. Les modèles d'équilibre général calculable, pour être un peu technique, font l'objet de débats énormes. Moi, j'avais un professeur d'économie à la Sorbonne qui s'appelait Bernard Guérien, qui disait que ces modèles, c'était des fables idéologiques qu'on ajuste en fonction des politiques qu'on veut promouvoir. Donc vous voyez, tout est dit. Et donc voilà, c'est ce type de modèles qui sont utilisés aujourd'hui et qui nous disent qu'on va avoir des gains de croissance et des gains d'emploi. Bon, quand on regarde le passé, pour moi, ce qu'on nous a promis et ce qu'on a eu, les promesses n'ont pas été au rendez-vous. Le rapport Cecchini nous promettait 6 à 7% de croissance en Europe et des millions d'emplois. J'ai pas l'impression qu'on ait eu ça. Donc vous voyez, et le danger dans ces traités de libre-échange, quand on fait un traité de libre-échange avec la Corée du Sud, ce qu'on a fait, qui fait 1800 pages, hein, soit dit en passant. Hein, donc j'espère qu'il sera beaucoup plus long que celui des États-Unis, hein, parce que la Corée, avec tout le respect que j'ai pour son économie, n'est pas les États-Unis non plus. On fait un traité de libre-échange avec la Corée. Outre le fait qu'on fait la promotion d'échange à 12-15 000 kilomètres alors qu'on a signé un accord sur le climat, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la Corée, on fait du commerce interbranche. C'est-à-dire qu'à part, hormis l'automobile, on échange des biens différents. Donc ça ne pose pas énormément de problèmes. Avec les États-Unis, on fait du commerce intrabranche. C'est-à-dire qu'on échange quasiment les mêmes biens. Des biens qui sont faits sous des normes différentes. Donc là, comment on va faire? Ben, on va négocier, justement. Et imaginez qu'on va faire moitié-moitié. Je pense que c'est être naïf. Je pense que derrière, ce sont ceux qui ont les plus grosses parts de marché qui vont faire en sorte soit de l'imposer via le traité, soit de faire en sorte qu'il y ait cette reconnaissance mutuelle des normes pour l'imposer via le marché.
Donc pour bien comprendre votre position, vous n'êtes pas pour une évolution du traité, vous êtes contre le principe même du traité.
En quoi ça répond aux problèmes actuels de l'Europe, qui sont 18 millions de chômeurs aujourd'hui, hein, donc il y a plutôt besoin d'une politique économique un peu plus dynamique, hein, politique monétaire, budgétaire, etc. Les inégalités qui augmentent et la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, je ne vois pas en quoi ce traité permettrait de répondre à ces questions.
Monsieur Fabry, je vois que vous n'êtes pas d'accord sur ce point-là.
Ben non, parce que là on passe un peu vite sur le sort de toutes les PME qui ont dû, qui il y a celles qui arrivent à se tourner vers les marchés d'autres États membres de l'Union européenne, il y a celles qui aspireraient à s'attaquer à des plus gros marchés et notamment le marché américain. Encore une fois, le bénéfice pour les PME est évident. Quand vous citiez différentes études, ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle direction elles vont. En effet, il faut se méfier des chiffres. Ça, je suis totalement d'accord sur les estimations en tant que telles. Il y a beaucoup de débats. Mais elles vont toutes dans le sens d'une création d'emplois, de points de PIB. L'étude qu'évoquait Thomas Porcher, c'est l'étude d'un doctorant et qui est très contestée par toute une série d'économistes dont ils disent qu'il n'a pas utilisé un modèle macroéconomique qui est complet, qui n'a rien à voir, qui ne peut pas être utilisé. Donc il faut rester raisonnable sur le... Et puis tout dépend, encore une fois, des termes de la négociation. C'est-à-dire que l'on obtienne une plus grande ouverture des marchés publics, hein, côté américain ou pas, que l'on obtienne...
Oui, tout dépend finalement de ce que vont donner ces négociations. Pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour vous prononcer.
Bien
c'est ce
sûr.
Que vous nous dites finalement.
Au stade actuel, on aura tout le temps, le moment venu, au moment d'une ratification, de se dire est-ce que oui ou non, ça en vaut la peine. Mais aujourd'hui, être dans une posture de rejet sur la poursuite des négociations, ça n'a aucun sens.
Alors juste parce que le temps... Thomas
Porcher, voudrais juste rebondir là-dessus. Peut-être que les PME trouveront des débouchés, mais elles auront quoi en retour comme concurrence? Parce que les PME, peut-être qu'elles trouveront des débouchés aux États-Unis, mais il y aura aussi de la concurrence. D'autres PME américaines qui viendront chasser sur leurs terres. La plupart des entreprises en Europe échangent entre elles. On va ouvrir, parce qu'on aura les mêmes normes, à des entreprises américaines qui vont prendre leur part de marché. Donc c'est pas qu'une question de débouchés. Toute offre ne crée pas sa propre demande.
Alors, je voudrais juste, dernière question sur un point quand même qui a été l'un des plus controversés au lancement des négociations, celui des règles encadrant le marché. En gros, la Commission a changé un petit peu d'avis. Elle propose finalement un tribunal stable où siégeraient 15 juges nommés par l'Union, les États-Unis et des pays tiers avec possibilité de faire appel. Thomas Porcher, c'est une bonne nouvelle, ce changement pour la Commission, ou bien pour vous, c'est toujours une manière pour les multinationales de pouvoir attaquer des États?
Ces tribunaux existent hein, depuis très longtemps, mais je trouve que encore une fois, on donne un pouvoir supplémentaire aux multinationales en leur demandant rien en échange. On leur demande rien en échange. Enfin, je veux dire, par exemple, l'évasion fiscale, ça existe aussi. Hein. Faudrait peut-être en discuter. 60 milliards d'évasion fiscale en France. Bon, faudrait peut-être en parler. Donc, on leur donne un pouvoir supplémentaire qui est d'attaquer les États quand il y a un changement de réglementation en leur demandant rien en échange. Donc, je vois pas pourquoi ce principe devrait être dans le traité.
Elvire Fabry.
Là, l'enjeu, ça n'est pas de donner en effet un avantage plus spécifique aux entreprises. Il y a un engagement qui est de préserver la souveraineté des États à réglementer, et ça va de soi. Ce qui est en jeu, c'est quand il y a un cas de discrimination, non-discrimination, et qui doit être prouvé. Donc c'est une portée quand même qui est très limitée. On a signé toute une série en Europe d'accords dans lesquels on a ces règlements des différends entre investisseurs et États. Le tout maintenant, c'est d'améliorer le système. Et cette cour permanente avec les États-Unis, elle pourrait préfigurer un système qui pourrait être étendu aux autres accords commerciaux.
Donc je suis désolée, Thomas Porcher, on n'a plus le temps. Mais merci beaucoup d'avoir été là. Le temps passe très vite. Merci donc à Thomas Porcher, docteur en économie à Paris 1, professeur à la Paris School of Business, auteur de TAFTA, l'accord du plus fort. Elvire Fabry, politologue, chercheur à l'Institut Jacques Delors, spécialiste de l'action extérieure de l'Union européenne. Merci également à Florence Ponce, à Hélène Avril. Tout de suite, un nouveau journal.